Je ne crois pas qu'on soit alcoolique en France.
Chronique. Là, il y a toujours une bonne bouteille sur la table, ça c'est évident.
Revue de presse.
C'est pas pour ça qu'on est alcoolique.
Invité du jour.
Et puis, la bière, ce n'est pas mauvais pour la santé.
C'est tout de suite dans la Happy Hour.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes à l'écoute de 48 FM et c'est l'heure de l'Happy Hour, une heure aujourd'hui pour parler d'alimentation ou plus précisément de souveraineté alimentaire en Lozère, pour reprendre les termes qui figurent aujourd'hui dans la nomenclature même du ministère de l'Agriculture. Cela fait un peu plus d'un an maintenant que le département s'est engagé dans un projet alimentaire territorial. En deux mots, c'est un programme national qui vise à revaloriser la production locale et le circuit court pour assurer une alimentation de qualité. Et pour en parler plus en détail, nous recevons aujourd'hui Robert Aiguin. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes vice-président du département et président de la commission économie circulaire, agriculture et accompagnement des filières, tout ça.
Tout à fait, tout ça.
Et nous avons également avec nous Aude Charmasson. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes quant à vous chargé de mission de ce projet alimentaire territorial. Alors je le disais brièvement en introduction, le projet alimentaire territorial, c'est un programme national. Il est issu de la loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt qui a été votée en 2014. La France aujourd'hui, elle en compte à peu près 400 de ces projets alimentaires territoriaux. Et c'est aux acteurs territoriaux, privés comme publics, de s'en saisir. Donc il y a plusieurs échelles qui sont possibles. Ça peut aller de la commune à l'intercommunalité ou, comme c'est le cas pour la Lozère, du département. Alors je vous propose qu'on commence peut-être par ça, par ce choix. Pourquoi l'échelle du département vous paraissait la plus pertinente ?
Tout d'abord parce qu'on est un département avec une forte production agricole aujourd'hui. Pourquoi nous avons aussi nous avons candidaté pour l'appel à projet d'un projet alimentaire de territoire? C'était aussi pour faire écho à ce que nous travaillons depuis 2017 concernant l'alimentation dans les cantines avec la plateforme agri-locale. Et donc il nous a semblé vraiment intéressant d'aller plus loin, puisque nous, déjà au travers de la plateforme agri-locale, il y a des agriculteurs, il y a des intendants de collège, il y a des cuisiniers qui sont intéressés. Là, c'était d'aller plus loin, d'aller aussi sur la production en elle-même, faire un point sur la production, où on en était. Et quand vous parliez tout à l'heure de souveraineté alimentaire, c'est à partir de ce que l'on produit que l'on peut dire si on est souverain ou pas souverain. Donc c'était cette donne que nous voulions aller plus loin. Et puis parce que l'alimentation, ben c'est 3 repas par jour dans le meilleur des cas, pas pour tout le monde malheureusement, mais ça veut dire que ça doit aussi nous interroger sur qu'est-ce qu'on a dans nos assiettes, comment on mange, comment on s'approvisionne, quel lien nous avons avec nos agriculteurs aussi, parce que l'alimentation c'est d'abord eux. C'est eux qui produisent, donc c'est eux avec qui on travaille tous les jours. Et puis il y a tout plein de aussi qui font écho à notre département, c'est tout le social, puisque nous avons de l'enfance jusqu'à la vieillesse, des personnes qui mangent dans les crèches, dans les maisons de retraite, un petit peu partout, dans les collèges bien sûr, où on est partie prenante au travers de la plateforme agri-locale.
Donc on va en reparler plus tard de cette plateforme agri-locale. Donc en fait l'idée première du choix du département, de l'échelle du département, c'est ça, c'est parce qu'en fait il ne s'agit d'exclure finalement personne, ça implique bien tous les Lozériens et Lozériennes.
Exactement, et qui font écho aux compétences propres du département.
Et chaque échelle est intéressante, le département c'est intéressant dans cet aspect de fédération. Mais il y a aussi d'autres territoires qui portent des PAT en Lozère.
J'allais justement en parler. Il y a notamment le PNR de l'Aubrac, là, qui a aussi son propre projet alimentaire territorial. Oui. Comment ça se passe? Il y a une coordination entre vous pour ne pas faire des doublons
Oui. Alors, on n'en est pas au même stade les uns des autres. Nous, du coup, au niveau du département, on en est à la phase de concertation et d'élaboration du plan d'action. Le PNR Aubrac a déjà un plan d'action qu'ils ont travaillé avant. Ils sont en train de mettre à jour leur diagnostic pour réactualiser leur plan d'action. La Comcom du Hautalier, ils sont au même stade aussi. Ils ont un plan d'action et ils sont en train de le dérouler. Mmh. Et le PETR Sud-Lozère ont été nouvellement labellisés PAT. Oui. Mais ils ont déjà beaucoup d'actions menées sur l'agriculture, l'alimentation, et du coup, ils sont en train aussi de dérouler ces actions-là, et pareil, de mettre à jour leur diagnostic pour mettre de nouvelles actions en place.
D'accord.
Et du coup, concrètement, en fait, on se réunit une fois tous les trois mois entre animatrices des PAT et chargées d'agriculture et de l'alimentation. Et en échange sur les actions des unes des autres, on se tient au courant de ce qu'on fait les unes des autres. Quand il y a des ponts, on les fait. Et surtout, le travail des unes sert le travail des autres et les expériences des unes servent les autres aussi. Et on se nourrit mutuellement. Et quand il y aura des actions à développer ensemble, on le fera. Enfin, en tout cas, c'est le cas sur la restauration collective
tout
déjà. Entre les deux chargées de mission, restauration collective, celle du département vient en appui des territoires qui œuvrent dessus.
Donc il n'y a pas d'exclusion, c'est un travail en commun.
Très collectif.
Voilà. C'est depuis 2021 que la Lozère a obtenu ce label, hein, vous le disiez, de projet alimentaire territorial. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique, ce label? Est-ce qu'il y a une démarche à suivre spécifique?
Il n'y a pas de carcan, disons. Ouais. On est libre de lui donner l'orientation que l'on souhaite. Mais nous, c'est une... Ça fait résonance, ce projet alimentaire de territoire, avec ce qui s'est passé avec la pandémie, au moment du Covid, où on s'est aperçu qu'on s'est vraiment retranché sur la production locale, puisqu'il y avait de moins en moins de produits extérieurs qui arrivaient sur ce territoire. Et en même temps, ça nous a permis de voir où on était bon et où on n'était pas bon. Déjà, on a fait un premier diagnostic en sachant qu'on n'avait pas tout sur la Lozère. Et donc, ça fait écho avec le mot souveraineté. Du coup, on se dit que dans les temps qui sont perturbés, comme aujourd'hui, demain, peut-être qu'on n'aura pas accès à toute l'alimentation qui arrive de l'extérieur sur la Lozère. Donc il faut se prémunir de ça. Et donc il faut jouer l'atout local, c'est-à-dire nos productions locales, manger local, manger sain, manger bon. Et ça, c'est un peu l'axe fédérateur de tout le projet alimentaire de territoire, c'est de pouvoir donner accès à une alimentation de qualité à tout le monde, même aux personnes qui sont aujourd'hui dans des situations un petit peu compliquées. Et là, on a vu, on le voit, hein, ce sont des études qui le montrent, c'est que l'alimentation devient vraiment le parent pauvre des foyers aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a le logement, il y a le transport, il y a l'éducation, il y a la santé aussi. Il y a beaucoup de postes qui aujourd'hui augmentent et aux dépens de l'alimentation. C'est-à-dire qu'on trouvera toujours de l'alimentation, mais pas forcément de l'alimentation de bonne qualité. Et ce que nous souhaitons, c'est de jouer vraiment le jeu de l'alimentation de qualité sur ce département, parce qu'on sait qu'elle existe aujourd'hui, et on va tout faire pour que tout ce qui n'existe pas, on puisse l'avoir, le relocaliser, notamment l'arboriculture, le maraîchage, le porc, parce que la filière porc, on est très déficitaire, et c'est la lentille aujourd'hui, on voit qu'on a des producteurs de lentilles, de pois chiches, donc il y a aussi la protéine végétale qui est mise en avant. Et ça, je crois qu'on peut demain y répondre.
La mettre en place en Lozère.
En Lozère.
Vous, Aude Charmasson, donc votre poste, il est spécifiquement dédié pour ce projet alimentaire territorial. C'est quoi vos missions ?
Ma mission principale, c'est de faire émerger le plan d'action du projet alimentaire de territoire. C'est l'animation du projet. Porter quelques actions concrètes, comme il va y avoir les assises de l'alimentation qui vont avoir lieu, donc fin d'année 2023, le 17 et 18 novembre. Et là, c'est un événement grand public et professionnel aussi pour que mieux manger devienne une habitude. On présentera le plan d'action du département à ce moment-là. Et puis, il y a d'autres actions. Par exemple, on a un appel à projet qui a été lancé auprès des foyers ruraux et des associations qui portent des festivals pour qu'elles nous proposent, enfin, qu'elles proposent des projets pour sensibiliser au mieux manger. Donc, c'était ouvert en février. Il y a eu 11 candidatures qu'on est en train d'analyser.
En fait, votre mission principale, c'est de fédérer les différents acteurs autour de ce sujet de l'alimentation, quoi. Voilà, de faire bouger un peu à la fois les citoyens, les associations, les agriculteurs.
C'est ça.
Et est-ce qu'il y a un type d'accompagnement de la part de l'État, puisque c'est un programme national? Est-ce qu'il y a une aide financière, par exemple, pour mettre en place ces projets alimentaires?
Bien sûr, oui. L'État participe à hauteur de 197 000 euros sur notre projet à nous, déjà. La région aussi vient en appui. Mmh. Et puis après, ce sont des mesures que le département finance à son nom propre.
D'accord, entendu. Donc ce projet alimentaire, vous l'avez dit, il doit déboucher dans l'idéal à l'adoption d'une stratégie alimentaire pour le département qui sera votée en octobre. Pour cela, donc, il y a plusieurs phases d'élaboration, de construction qui sont encore en cours. Mais avant de revenir plus en détail dessus, peut-être qu'on pourrait déjà dire les principaux objectifs que vous vous êtes fixés déjà, là, puisque c'est depuis 2021 que vous avez commencé à travailler dessus. Quels sont les principaux objectifs alors?
Comme c'est un projet collectif, les objectifs, il faut qu'on les réfléchisse aussi collectivement. Mmh. Et il faut que l'on ait une appréciation de qu'est-ce que ça représente l'alimentation pour le commun des mortels lozériers. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça sous-entend pour eux, comment ils mangent, comment ils s'approvisionnent, comment ils cuisinent, s'ils cuisinent ou s'ils ne cuisinent pas. Mmh. Pour eux, quel est le meilleur moyen de manger sain en Lozère? Est-ce que c'est les circuits courts? Est-ce que c'est les produits transformés? Est-ce que c'est dans les cantines, c'est quoi une alimentation qui leur paraît être la plus saine pour leurs enfants? Donc on a besoin de sentir ça. Je crois que du diagnostic, un bon diagnostic comme il est fait un peu sur tous les territoires et que font tous les PAT d'ailleurs, hein, c'est à partir d'un bon diagnostic qu'on arrive à avoir les bonnes actions à mettre en place. Donc parce qu'elles sont partagées.
Ouais. Pour l'instant, il est toujours en cours. Il n'y a pas encore des axes principaux que vous avez pu retenir jusqu'à présent.
On en est déjà aux axes quand même. Si, ouais. On travaille des axes. Ces axes ont été travaillés dans le cadre d'ateliers participatifs lors du dernier mois. Là. On les a finis la semaine dernière, je crois. Il y a 15 jours. Voilà. Oui. On les a terminés. Donc là, on a pu voir souvent les on s'est aperçu qu'il se faisait beaucoup de choses, hein, qu'il y avait besoin de les organiser, souvent. C'était soit au niveau de la logistique, au niveau, par exemple, on a vu que beaucoup de personnes disent « oui, il faut du végétal dans l'alimentation. Quelles sont les productions végétales que nous avons aujourd'hui ?» Tant en maraîchage qu'en arboriculture, par exemple, ou en protéines végétales. Donc on sait qu'on a des lacunes, et il faut que petit à petit, les uns et les autres, on en prenne conscience et de mettre en face ce qu'il faut faire. Aussi, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait une certaine proximité sur cette alimentation-là, c'est-à-dire qu'on puisse retrouver des productions locales dans toutes les petites épiceries, dans les maisons de producteurs, dans les grandes surfaces aussi, et il y en a qui jouent le jeu aujourd'hui, hein, on voit que... Mais on peut encore aller plus loin. Communiquer, bien sûr, parce que souvent c'est le manque de communication qu'on a. Les gens disent « Ah mais non, mais ça, il n'y en a pas en Lozère ». Ben si, il y en a en Lozère, il y a de la production de ça en Lozère, et donc il faut se faire savoir. Et ça, c'est aussi un des enjeux.
Oui. L'objectif premier, du coup, pour le moment, c'est de relocaliser l'alimentation.
Voilà.
Et les axes qu'a dit Robert permettent de concourir à cet enjeu-là.
D'accord.
Et du coup, les axes, c'est développer l'offre, c'est développer l'accessibilité financière à cette offre, développer l'accessibilité physique à cette offre aussi, donc avec les commerces, les restaurants, la logistique, et développer la sensibilisation et l'information du consommateur. Donc, comme disait Robert, de savoir où trouver les produits, et puis de savoir aussi quel impact mes choix alimentaires ont sur la santé, l'environnement, l'économie.
Très bien. Et cette stratégie alimentaire qui sera votée en octobre, ce sera pour combien de temps qu'elle sera actée?
Alors, je pense que c'est comme toute action, elle va... Pour qu'elle dure, d'abord, il faudra y consacrer du personnel. Et je pense que là, c'est important. Et on voit le travail fantastique que fait Aude pour la mise en place de ce PAT. Et il faudra continuer, si c'est une politique volontariste du département, d'aller sur l'alimentation, d'y consacrer des moyens humains pour pouvoir le faire vivre. Parce que si ce sont des actions qui vont être travaillées collectivement, elles ont besoin aussi, à un certain moment, d'être... orienté politiquement, de façon à ce que ça ne perde pas de sens. Et nous, on y tient beaucoup, à ce que la politique alimentaire du territoire ait du sens.
Donc il y aura une première phase d'expérimentation, peut-être, après le vote en octobre.
Bien sûr. Ouais. Puis après, c'est aussi sur des pratiques. Je vais vous prendre juste un exemple. Énormément de collectivités font des apéritifs pour lorsqu'ils font une inauguration. Combien d'alimentation locale y a-t-il dans ces apéritifs ? Première question qu'on peut se poser.
Bonne question.
Et nous, département, on se la pose aussi. Hein. Ben, on veut essayer de bannir les cacahuètes, les frites trop salées, parce qu'on a aujourd'hui la possibilité d'avoir des pommes de terre locales en frites qui sont moins salées. Et donc, meilleur pour. Et avoir aussi peut-être des marrons naturels. On a des productions aujourd'hui qui sont faire des petits toasts avec du pâté d'un producteur local. Ouais. Voilà. Ce sont des habitudes qu'il faut qu'on change, mais qui sont très très importantes parce que chaque fois que l'on réoriente l'alimentation, c'est forcément de l'argent pour le territoire. Parce que cet argent-là, si c'est pour le donner à Balzen, en achetant des produits Balzen, j'ai rien contre ce monsieur, hein, si ce n'est que c'est pas bon pour l'alimentation, c'est aussi redistribuer de l'argent au travers de nos actions.
Voilà. C'est un cercle vertueux.
Tout à fait.
Finalement. Donc pour fixer ces objectifs dont on vient d'évoquer, donc il a fallu d'abord faire un état des lieux, comme vous l'avez dit. Donc je propose qu'on fasse un peu cet état des lieux, en tout cas de l'agriculture telle qu'elle se présente aujourd'hui en Lozère. Donc je propose de faire un petit comparatif avec la France. Donc aujourd'hui, au niveau national, la surface utilisée pour les exploitations agricoles, donc c'est la SAU, hein, superficie agricole utilisée, ça représente aujourd'hui 49% du territoire. Donc c'est 26,7 millions d'hectares, pour être plus concret. En Lozère, qu'en est-il ?
En Lozère, c'est 249 800 hectares. Et les chiffres, c'est 48% du territoire de la surface agricole utile de la Lozère, enfin voilà, 48% de la Lozère en SAU agricole.
Ok.
Et 43% de forêt en Lozère. Donc on a 48 et 43.
Ok, très bien. Et ça a évolué, c'est à peu près stable depuis ces derniers temps. Est-ce que on a une idée de l'évolution de ça ?
On en perd un petit peu, tout. Ouais. On en perd un petit peu. On a du mal à reconquérir des terres, souvent parce que ces terres-là sont abandonnées depuis trop longtemps et du coup il y a eu de la friche qui s'y est mise dessus. Le défrichement a été un obstacle pour beaucoup d'agriculteurs à certains moments puisque c'était prohibitif au niveau de la compensation qu'il y avait. Il y a eu une amélioration nette aujourd'hui. Donc quand on dit reconquérir, c'est souvent des endroits où il y avait de la pâture. Les paysages se sont fermés, il y a eu des pins qui sont venus, ou des genêts, ou des ronces, et donc il a fallu reconquérir ces terres-là, qui sont aussi très intéressantes aujourd'hui, parce qu'on voit qu'avec la sécheresse, on a besoin d'avoir de surface, un peu plus de surface pour l'agriculture. Et puis on a toutes des régions comme les Cévennes, où il y avait une agriculture vivrière importante sur des bancelles, qu'il faudra faire revenir, comme aujourd'hui il y a un travail qui se fait autour de la Canourgue, qui avait aussi une forte implication sur le maraîchage, ou autour du Lot par exemple, où on a des terres intéressantes aujourd'hui à reconquérir pour de l'alimentation.
Et l'urbanisation, c'est environ 50 hectares par an qui sont urbanisés en Lozère. Donc c'est 50 hectares.
Oui.
Après, c'est aussi des bonnes terres qui sont plates, qui sont bien exposées, forcément, parce que c'est là où on a envie de faire des maisons.
Oui, donc il faut être quand même vigilant aujourd'hui. Je pense qu'il est plus facile aujourd'hui d'amener de l'eau dans un terrain qui est rocailleux, inutile pour l'agriculture, plutôt que d'aller implanter une maison ou un lotissement dans des terres plates qui, elles, ont cette urgence de rester à vocation alimentaire.
Et en termes de nombre d'exploitations, donc en France, il y en a 390 000 à ce jour, selon les chiffres du ministère. Et il y a eu une baisse ces dernières années, ces 10 dernières années, c'est 100 000 de moins en France. Est-ce que, déjà en Lozère, combien on a du nombre d'exploitations ?
Environ 2500 à peu près.
Et est-ce que là, pareil, on a une estimation de l'évolution ? Est-ce que ça diminue ? Est-ce que ça augmente ?
Alors, on est toujours impacté, hein, bien sûr, parce qu'on a une population vieillissante, donc on a forcément. Mais on a quand même un renouvellement qui est intéressant, et le travail qui est fait aujourd'hui sur le département, notamment avec les dotations jeunes agriculteurs, on est quand même en pointe. C'est un département qui est en pointe en Occitanie pour installer des jeunes. Alors souvent, c'est pour reprendre des parts de GAEC, donc dans le cadre familial, mais on a aussi hors cadre familial des installations. Et on a aussi des gens qui arrivent sur notre territoire, qui ont ce rêve de faire de l'agriculture, Et là, alors bien sûr, il y a peut-être certaines difficultés d'adaptation déjà, et puis peut-être pour concrétiser leur rêve, il faut se heurter au réel. Et des fois, c'est plus compliqué, mais il y en a qui s'obstinent et qui ont de très bons résultats. Et je pense que c'est aussi un avenir, c'est un nouveau qui arrive. Et ça, c'est important pour le département qui a axé aussi sa politique sur le renouvellement avec l'accueil de nouvelles populations.
Qui est l'un des enjeux du secteur agricole là, pour les 10 prochaines années, hein, puisqu'on estime que la moitié des agriculteurs en France auront l'âge d'être en retraite dans 10 ans.
Tout à fait.
Mais c'est vrai que, comme vous le dites, la Lozère là, fait un peu figure d'exception. En tout cas, en 2022, il y a eu un nombre d'installations assez conséquent.
On s'en félicite et on remercie tous ceux qui y travaillent aujourd'hui.
Et donc, en parlant d'agriculteurs, justement, qu'est-ce que ça représente en Lozère, le nombre d'actifs, en fait ?
Au niveau lozérien, c'est l'emploi en agriculture, c'est 10% des emplois en Lozère. Mmh. Et au niveau national, c'est 2%. Donc, ça illustre vraiment qu'on est un territoire agricole très marqué.
C'est un secteur de l'économie très important.
Et les estimations, un agriculteur, c'est environ 1 à 5 emplois indirects, plus ou moins locaux. Enfin, les estimations sont assez lâches les unes des autres. Mmh. Mais forcément, toute personne présente sur un territoire fait vivre ce territoire. Mmh. Donc voilà, il y a des emplois indirects qui sont connectés à ces emplois directs.
À cette activité de l'agriculture.
Oui.
Et il y a aussi une autre bonne nouvelle, en tout cas de la bel état de santé de la Lozère, si on peut dire ça comme ça, du chiffre des exploitations bio qui sont aussi assez bien en bonne évolution quoi, en Occitanie, en tout cas par rapport à l'Occitanie, c'est ça ?
Oui, il y a 21% de la surface agricole en Lozère est bio. Mmh. Et nationalement, c'est 9,5%. Donc, c'est une belle performance.
Et on voit qu'on peut aller encore plus loin parce qu'on est vraiment un département qui, au niveau de la conversion en agriculture biologique, est beaucoup plus facile que certains endroits où on a utilisé déjà beaucoup de produits chimiques, beaucoup d'intrants. Nous, on est quand même un département assez vertueux de ce côté-là et c'est assez facile. Mmh. Je crois qu'on a une agriculture qui est très raisonnée dans notre département.
Je propose qu'on fasse une petite pause avec toi, Eric. Tu nous parles dans ta chronique de l'arrivée, enfin, du printemps.
Et oui, c'est le printemps. Et qui dit le printemps, dit renouveau. La nature va ainsi reprendre ses droits. Avec le printemps, reviennent les hirondelles. Les allergies avec les yeux qui piquent après un bon gazage lors d'une manif contre la loi pour les retraites. Le nouveau rapport du GIEC qui va passer en dessous de la pile des choses inutiles qu'il faut surtout remettre à demain, quand sera l'hiver et qu'on n'aura plus le temps. Mais trêve de plaisanterie et d'avenir radieux, que je ne suis jamais contre un trait d'humour. Ainsi l'autre jour, je parlais jardinage avec mon pote âgé. Jardinage, potager, vous l'avez ? Bon allez, c'est le printemps, on peut rire un peu. Bon, et je pense quand même qu'en parlant de jardinage, je suis bien dans la thématique de l'émission d'aujourd'hui. Après, faut l'avouer, parler de jardinage, ça me donne quand même un coup de vieux, parce qu'il faut bien le dire, il y a quelques signes qui prouvent qu'on vieillit. Par exemple, quand on s'arrête devant un chantier, qu'on met les mains dans le dos et qu'on commande genre « ça, c'est un sacré ravalement de façade, c'est pas comme la voisine !» Bon, je parle de ravalement de la maison de la voisine, hein, vous avez compris, j'espère. Et quand les jeunes, justement, commencent à vous donner du monsieur, et vous voyez, ça fait mal. Et quand on trouve en soirée que la musique est trop forte, qu'on ne s'entend plus parler! Mais au fait, c'est quoi une soirée, déjà? Et le signe ultime, c'est qu'on commence à parler de sa prostate, de celle de son pote âgé. Allez, il faut vraiment que j'arrête avec cette blague. Donc, le truc qui monte quand il y est, c'est bien de parler de potager. Et depuis le confinement, on le voit, les jardins des maisons commencent à se transformer. Si vous voyez votre voisin avec une pelle, ce n'est pas forcément le nouveau Dupont de Ligonnès. C'est plus fréquemment un ancien jeune qui s'est mis à la mode du jardinage. Si on y réfléchit, en plus, c'est très humain comme activité. Tu plantes la petite graine et quelques mois après, il y a un bébé chou-fleur ou une courge. Tu t'y attaches moins qu'un enfant et il y a moins d'enjeux éducatifs, c'est sûr. Bon, après, pour le stockage, c'est pareil. Tu peux utiliser le congélateur. Mais bon, voilà. Dans une période où on commence de plus en plus à se demander ce qu'il y a dans nos assiettes, il n'existe rien de mieux que de cultiver soi-même. Au moins, là, tu sais. Non, vraiment, je vous le dis, si vous en avez la possibilité, c'est plutôt une bonne idée de faire son potager. Alors déjà, c'est un lieu plutôt agréable pour se détendre. On peut même se changer, voire se ressourcer les idées, en préparant son potager. C'est un bon moyen pour s'alimenter sainement et pour pas cher. Alors, bien sûr, je ne parle pas ici de devenir autosuffisant ou de cultiver la totalité de vos légumes dans votre jardin, car cela vous demandera beaucoup trop de temps et d'investissement. Quoique, si vous sentez de cultiver la totalité de vos légumes, foncez. Alors, le fait de faire du jardinage est sûrement l'un des moyens les plus simples pour renouer avec la nature. De pouvoir toucher les plantes, les légumes, avoir les mains dans la terre, permet de nous rappeler ce que signifie la nature. C'est aussi un moyen pour les enfants de découvrir la vie des légumes, des fruits, des insectes qu'ils ne connaissaient pas toujours, et donc être sensibilisés au vivant, afin qu'ils l'apprivoisent le mieux possible pour l'avenir. Il paraît même que chez McDo, ils ont fait pareil. Ils ont remplacé les potatoes par des légumes. Mais bon, les légumes McDo, comme tout ce qu'il y a chez McDo, ça devrait être comme les légumes oubliés. Ce sont des légumes, tu préfères les avoir oubliés. Hein, les topinambours ? Bon, allez, je vous laisse. Je vais préparer mes semis avec mon potager.
Merci Eric, vous êtes à l'écoute toujours de 48 FM et on continue à parler de ce PAT, projet alimentaire territorial, dans lequel est engagée la Lozère depuis 2021. Avec nous pour en parler, Robert Aiguin, vice-président du département et président de la commission économie circulaire, agriculture et accompagnement des filières, ainsi que Aude Charmasson qui est elle chargée des missions projet alimentaire territorial. Donc l'un des enjeux de ce projet alimentaire territorial, comme on l'a dit déjà beaucoup en début d'émission, c'est de relocaliser, revaloriser la production locale. Dernièrement, il y a eu ces chiffres plutôt alarmants qui font état qu'en France, il y a un fruit et légume sur deux consommés qui est issu de l'importation. Est-ce que nous, on sait en Lozère, est-ce qu'il y a des chiffres qui font état de ça un peu, de cet import-export vis-à-vis de la production lozérienne ou pas ?
C'est des chiffres difficiles à avoir. Ouais. Ce qu'on sait, c'est qu'en Lozère, on peut produire 20% de notre consommation en fruits et légumes. Pas en fruits et légumes, en légumes.
Okay.
Juste en légumes, la production maraîchère lozérienne produit 20% de la consommation. Mais après, de savoir l'import-export, c'est vraiment des données difficiles à avoir au niveau local.
Ben, disons qu'en Lozère, beaucoup trop, de fruits viennent de l'extérieur, puisqu'on en produit très peu. On produit un petit peu de la pomme, de pomme de bouche ou pomme pour le jus de pomme sur le territoire, un petit peu de fraises et de framboises, mais pas suffisant, parce qu'on s'aperçoit aujourd'hui, notamment au niveau des fruits transformés, que les transformateurs en confiture font souvent appel à des productions qui ne sont pas produites en Lozère. Donc on voit le possible qu'il y a sur ce département de relocaliser la production de fraises, la production de pommes, la production de poires. Mmh. Et on a un avantage qui va être très important dans les années à venir, c'est la grande difficulté qu'il y a à faire aujourd'hui du fruit en bord de Méditerranée, notamment dans le sud, vu les chaleurs qu'il fait aujourd'hui, vu les gels tardifs qu'il y a. Et donc il y a certainement un travail très intéressant à faire en arboriculture notamment, pour remonter la production de fruits. Sur ce département, quand bien même on aura aussi réglé les problèmes de l'eau, qui est indispensable aussi pour produire des fruits. Mais on a cette chance, dans ce département, comme dans d'autres départements de France, d'avoir encore des variétés de fruits qui sont très adaptées, notamment des fruits de montagne, qui sont très adaptées au manque d'eau. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ont un système racinaire qui est très, très important, ils vont chercher l'eau très bas, et qui une fois qu'ils sont implantés, on a toujours besoin, lorsqu'on fait une plantation, d'arroser. Ouais. Mais lorsqu'on a des arbres fruitiers qui sont implantés, notamment la pomme, la poire et d'autres fruits, ça peut être une solution, vu le fait qu'on manque de plus en plus d'eau sur ce territoire.
Ouais. Est-ce que ça ferait partie potentiellement d'une des pistes de la stratégie alimentaire de plus suivre justement la traçabilité de nos productions, savoir où elles vont, si elles profitent en majorité aux Lozériens ou pas? Est-ce que c'est une piste envisagée ou c'est trop compliqué à mettre en place?
Mais c'est suivre le mode de consommation, vous voulez dire.
Ouais.
Alors, on peut l'avoir déjà un petit peu par les fournisseurs, hein, par le marché de détail, c'est de savoir quelles sont les productions locales dont ils ont la possibilité de les avoir dans les étals. Mm. C'est ce qu'il faut voir. Donc s'ils ne l'ont pas, ça veut dire que ça vient de l'extérieur.
D'accord.
C'est clair aujourd'hui. Mm. Donc si là, on peut avoir ce curseur, en disant, aujourd'hui, peut-être, on a 10% de cette alimentation qui est dans les étals. Notre challenge à nous, dans la piste qu'il faut qu'on travaille, c'est passer à 15, à 20, à 30% et être de moins dépendant de l'extérieur. Et du coup, on aura ce côté souveraineté alimentaire très, très territorial que l'on souhaite pour notre pays, au niveau de la France, mais que l'on souhaite aussi avoir chez nous, parce que les accidents, on voit bien avec une pandémie ou bien un affrontement militaire aux portes de notre pays, peut tout à coup nous priver d'une alimentation. Et on sait, notamment en France, qu'il y a un gros travail à faire collectivement au niveau de l'État français, c'est qu'on a quand même que 4 jours
d'autonomie
alimentaire. Ça fait peur.
Ça fait peur, en effet. Et donc, vous le disiez, Aude Charmasson, que la Lozère pouvait prétendre, parce qu'aucun territoire ne peut prétendre être 100% autonome, ça va de soi. Oui. Mais la Lozère peut quand même prétendre à se suffire elle-même, donc comme vous l'avez dit, avec les légumes. Est-ce qu'il y a d'autres types de production que la Lozère pourrait peut-être mettre plus en avant, ou en tout cas que le territoire pourrait accueillir pour qu'il y ait une autonomie suffisante?
Il y a les productions végétales, pois chiches, lentilles, enfin les protéines végétales qui pourraient être développées en Lozère. Après, côté viande, les agriculteurs s'inscrivent en filière longue. Beaucoup. Il y a la production locale qui se développe, les circuits courts qui se développent aussi. Ça pourrait sûrement être plus développé. Mais avant de détricoter quelque chose, il faut. C'est en place pour des raisons. Avant
d'amener de nouveaux types de production, déjà voir ce qui est existant et comment faire en sorte de les revaloriser, c'est ça?
Oui. Déjà de partir de l'existant, oui.
Ouais.
Mais c'est sûr qu'on peut développer le maraîchage et l'arboriculture.
Parce qu'actuellement, la Lozère, c'est principalement de l'élevage. C'est ça, j'avais une carte, voilà, ça y est, je l'avais plus sous les yeux. Ouais. En Lozère, d'ailleurs, c'est la plus grande proportion dans la région. Il y a 64% de part d'exploitation consacrée à l'élevage. Voilà, et on peut dire d'autres chiffres. La production végétale, à ce jour, c'est 5%. Et les autres productions animales, 26%. Donc voilà, finalement, l'élevage, c'est quand même la majeure partie des types de production qui se fait en Lozère.
Mais parce que c'est aussi le meilleur moyen d'entretenir le territoire. La pâture, on est vraiment un département sur l'extensif, en extérieur, pour entretenir notre territoire. Et heureusement qu'on les a. Et je dis juste un petit mot comme ça, un petit peu. Et c'est vrai que je rejoins tout à fait tous ceux qui combattent aujourd'hui l'idée que si on n'arrête pas le loup, on va avoir de grandes difficultés à avoir de l'élevage à l'extérieur. Donc c'est des points d'alerte aujourd'hui qu'on ne peut pas passer sous silence. Je crois qu'il faut que là, collectivement, on se mette vraiment autour de la trave et trouver des solutions, mais vraiment des solutions effectives, c'est-à-dire avec une diminution drastique du loup, parce qu'aujourd'hui, elle est vraiment l'handicap pour des productions et des belles productions, notamment avec l'agneau d'Elovelle, par exemple. On a vraiment besoin, et ça, il s'attaque maintenant au veau, donc il y a besoin d'avoir vraiment de réguler cette espèce-là. Il faut que tout le monde l'entende, même ceux qui sont pro-loup. Moi, je ne suis pas pour éradiquer le loup, mais je pense qu'aujourd'hui, il devient un handicap vraiment pour ce département. Et s'il est aussi beau et aussi apprécié aujourd'hui, ce département, c'est parce qu'il est entretenu par les agriculteurs et par les éleveurs. Donc, prenons garde à ne pas avoir un effet destructeur sur cette profession-là. Quoi.
Je propose qu'on revienne plus en détail maintenant sur les différentes actions qui sont menées ces derniers temps dans le cadre de ce projet alimentaire territorial. Donc, il y a plusieurs événements qui ont été organisés depuis 2021. Et tout dernièrement, il y a eu, par exemple, des ateliers adressés aux chefs cuisiniers des restaurations collectives. Donc, en tout, ce sont 54 cuisiniers, je crois, qui ont participé à ces ateliers. Il y en a eu 5 des ateliers. Qu'est-ce qu'il s'agissait de leur apporter ou de leur... En quoi ils consistaient, ces ateliers?
C'est de l'information, de la formation, de la sensibilisation sur l'introduction de produits locaux dans la restauration collective. Il y a différents sujets, il y a différents thèmes d'ateliers. Il y a eu des ateliers sur le gaspillage alimentaire qui s'est déroulé en 2 journées différentes pour que les... En fait, c'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert aux gestionnaires, aux directeurs, aux cuisiniers, aux agents de service. Enfin, vraiment, à tout le monde pour embarquer toute la restauration collective dans cette démarche. Et donc, il y a eu sur le gaspillage alimentaire, sur l'alimentation, le lien entre alimentation et santé, et sur l'introduction de produits locaux à budget constant.
Il y a eu aussi un atelier concernant la découpe de viande, c'est-à-dire de pouvoir avoir des bêtes des bêtes ou bien une volaille entière. Mmh. Parce que souvent, ce qu'on a dans les collectivités, c'est qu'on achète des parties de poulet, des parties de... Et là, aujourd'hui, c'est par exemple de dire avec un poulet, ben si je le découpe bien, je peux faire manger 8 gosses.
D'accord, donc c'est la transformation.
C'est la transformation.
Aussi,
et donc, du coup, le delta qu'il y a sur une bête entière, poulet ou autre, c'est qu'on reste dans des prix corrects plutôt que d'aller sur de la portion, et on enlève l'emballage plastique qu'il y a chaque fois que l'on achète, que ce soit sous vide ou que ce soit congelé. On a toujours du plastique, et je crois que là, il faut qu'on soit tous vertueux, puisqu'on a cette impériosité de combattre le plastique, parce que le plastique est en train de détruire notre planète aujourd'hui. Et donc, c'est par ce biais-là aussi, on joint les deux bouts, c'est-à-dire...
C'est ça, préservation de l'environnement
et mieux manger, et revalorisation. Et chaque fois qu'on travaille un poulet entier, il faut savoir que derrière le poulet entier, il y a le producteur derrière. Mm-hmm. Lorsque vous avez une escalope, un pilon, vous ne l'avez pas. Lorsque vous avez le poulet entier, ben vous pouvez vous imaginer qu'il y a il y a très peu de temps, il était encore en train de courir dans les champs.
Voilà, ça rappelle la réalité
de
l'élevage, de la production. Quand on parle de restauration collective, juste de quoi on parle précisément? C'est quoi, les collèges?
En fait, toute la restauration collective peut participer à ces ateliers. Et donc, c'est les maisons de retraite, les hôpitaux, les crèches, les écoles, partout où il y a la restauration collective. Et c'est des ateliers gratuits pour tous les acteurs du territoire, enfin pour toute la restauration collective.
Même si le département n'a pas, par exemple, la compétence pour gérer, je ne sais pas moi, les EHPAD.
Ah oui,
EHPAD,
parce que ce n'est pas de l'ingérence, c'est vraiment une proposition ouverte à tous.
Tout à fait.
C'est un service.
Et on sait aussi, là, dernièrement, il y a la ville de Mende qui a fait savoir qu'elle voulait passer en régie pour gérer sa propre restauration collective. Est-ce qu'elle vous a contacté? Est-ce qu'il y a une réflexion qui a été entamée auprès du projet alimentaire territorial ou pas?
Moi, j'ai découvert comme vous.
D'accord, voilà. Ok.
C'est dommage, je pense que ça... Mais on va travailler ensemble, voilà. Il n'y a pas de souci.
L'appel est lancé, alors.
Oui, nous, on est prêts.
Il y a aussi donc des concertations menées avec les citoyens dans le cadre de ces ateliers projet alimentaire territorial. Donc, il y a d'abord eu l'été dernier un questionnaire, et là dernièrement, en février, c'était des ateliers thématiques. Est-ce que vous pourriez nous les dire, quelles étaient ces thématiques?
Oui, alors il y en a eu 8.
Wow.
8 thématiques, ouais. Et c'était justement pour travailler concrètement sur les actions à développer pour relocaliser l'alimentation. Donc il y a eu un atelier sur le maraîchage, comment faire pour développer la filière maraîchère en Lozère. Donc, ce n'est pas la seule filière qu'on pourrait développer en Lozère, mais c'est un point de départ. Voilà, le maraîchage, c'est ce qui est remonté comme manquant le plus sur le questionnaire qu'on a fait en été. Ouais. C'était un manque qui remontait beaucoup, c'est de ce manque maraîcher. Et les cuisiniers le disent aussi, les cuisiniers des collèges. Ouais. Le maraîchage, les ateliers de transformation aussi, de s'interroger sur quels ateliers de transformation agroalimentaire il manque en Lozère, on devrait développer, mais en faisant attention, parce que c'est un écosystème assez fragile et il ne faut pas installer un nouvel outil qui déstabiliserait un autre. Il y a eu aussi un atelier sur le foncier, comment faciliter l'accès au foncier des porteurs de projets agricoles. Ça, c'est 3 ateliers sur développer l'offre, en fait, finalement, développer l'offre locale. Ensuite, un atelier sur... on va dire la solidarité alimentaire, c'est comment faire en sorte que l'alimentation locale de qualité soit accessible financièrement à tous. Un autre atelier sur 3 autres ateliers sur la problématique de l'accessibilité physique de l'alimentation. Donc un atelier sur comment est-ce qu'on pourrait trouver plus de produits locaux dans les commerces qui existent actuellement. Un sur comment on pourrait faire pareil, trouver plus de produits locaux dans les restaurants collectifs et commerciaux. Et un dernier atelier sur la logistique, parce qu'on sait que c'est un nœud qu'il y a derrière la distribution des produits locaux. Soit parce que les volumes commandés sont trop petits et du coup la livraison n'est pas rentable. Mmh. On perd son argent à les livrer et son temps. Soit parce que les volumes commandés sont trop gros et du coup c'est difficile pour un agriculteur de répondre à la demande. Il faudrait pouvoir mutualiser des réponses d'agriculteurs, donc mutualiser des flux pour répondre à la demande. Mmh. Et ensuite, une dernière partie d'atelier sur l'accessibilité à l'information. Et donc là, c'était comment sensibiliser le consommateur à l'impact de ses choix alimentaires et comment mieux l'informer de l'offre qui existe en Lozère.
Et justement, sur ce dernier point-là précisément, est-ce qu'il y a des choses qui font consensus, à l'inverse, débat entre les Lozériens justement sur...
cette sensibilisation à la consommation locale, parce que finalement, c'est pas forcément toujours évident d'avoir déjà l'argent suffisant pour acheter local, parce que c'est forcément un peu plus cher. Est-ce qu'il y a eu des débats au cours de ces ateliers ?
Pas au cours de ces ateliers, mais avant. Enfin, en fait, pendant les projections de films documentaires, on a en partenariat avec les bibliothèques du territoire, il y a eu 10 projections.
Le mois du doc.
Oui, oui, le mois du doc. Mm-hmm. Et ce qui ressortait beaucoup, là, il y a eu un consensus sur il faut développer les circuits courts, l'accès aux produits locaux, en faisant attention à ne pas stigmatiser l'agriculture classique et idéaliser l'agriculture d'avant ou une agriculture plus alternative. Bien faire attention à montrer le positif et le négatif de chaque approche, et parce que chaque approche a des côtés positifs et peuvent s'enrichir l'une l'autre.
Donc c'est plus vis-à-vis du rapport entre les citoyens et leurs agriculteurs, en fait, qu'il y a eu un peu peut-être des points d'achoppement ou en tout cas des réflexions.
Non, mais on sait aussi que sur l'alimentation, personne n'est parfait. Aujourd'hui, on a tous des progrès à faire, on a tous à se regarder les uns les autres et à savoir vers où on va. Et le but aussi de ce projet alimentaire territorial, c'est de se donner une destination commune sur l'alimentation. Et je crois que même si aujourd'hui tout le monde n'a pas la même appréciation sur ce qu'il faudrait faire, il faut le mettre en débat. C'est-à-dire qu'il faut en parler, en discuter. Et à partir de ces discussions-là, on s'aperçoit que les personnes ne sont pas très loin les unes des autres. C'est souvent des a priori qu'il faut enlever, c'est des fausses informations, des bruits qui courent, des choses qui sont comme dans tout sujet. L'alimentation fait partie aussi des sujets où on dit de tout et n'importe quoi. Donc il faut vraiment de savoir de quoi on parle et je crois que c'est avec cette maturation collective qu'on a, là, ce qu'on est en train de faire et qu'on va partager par la suite avec les réunions territoriales, avec tous les Lozériens, c'est de voir qu'on a tous des progrès à faire parce que personne n'est parfait, personne ne mange que du bio, personne n'a les moyens aussi de s'acheter que du bio. Donc on fait tout ce comme on peut, mais il faut tendre vers, parce qu'on a aussi cet enjeu planétaire aujourd'hui, c'est qu'il faut, je dis, presque rentrer en résilience, c'est-à-dire qu'on a changé notre consommation, parce qu'il y a 100 ans, finalement, ce qu'on veut réintroduire aujourd'hui, c'est comment on a mangé il y a 100 ans, c'est-à-dire avec des circuits très courts, le plus court possible, qui ont été bien abîmés par le progrès, l'industrialisation. Donc il faut revenir à quelque chose de plus sain, de plus... Bon, on sait que c'est pas facile, hein. La marche arrière, comme la marche avant, est toujours compliquée. Donc on va le faire tous ensemble.
Il y avait un débat aussi sur est-ce que ce changement d'habitude, c'est une question de volonté ou une question de possibilité ?
Oui.
Il y en avait qui disaient, si on veut, on peut, on a les produits, on met plus d'argent, etc. Et d'autres personnes qui disaient, oui, mais on ne peut pas. Des fois, financièrement, on ne peut pas.
Notamment en ce moment, avec l'inflation là, qui touche particulièrement l'alimentaire, hein, plus 14%. Et il y a eu aussi une petite étude là, faite par l'Observatoire alimentaire des familles, qui est sortie en février, qui disait que 55% des Français considèrent que c'est trop cher aujourd'hui de manger équilibré. Donc après, équilibré, à savoir aussi ce que ça implique. Hein, tout le monde n'est pas aussi d'accord sur ça. Mais il y a aussi quand même 32% qui voient les prix comme une préoccupation principale, majeure de l'alimentation. Donc voilà, quelles sont les pistes aussi peut-être dans ce projet alimentaire territorial sur cette question du prix qui est toujours... ça implique les agriculteurs, parce qu'en soi, s'il faut qu'ils soient toujours là, et si on veut qu'ils continuent à produire, et il faut bien les rémunérer. Mais en contrepartie, tout le monde n'est pas prêt ou ne peut pas mettre suffisamment. Donc, est-ce qu'il y a des pistes là qui sont sorties déjà ou pas, des ateliers comme ça ?
Un petit peu, oui. Ouais. Oui, bien sûr qu'il y en a. C'est, je pense que la relocalisation, déjà, d'une certaine façon, on va s'affranchir de notamment de l'augmentation du prix du pétrole, hein, qui est aussi... parce qu'aujourd'hui, la marchandise alimentaire voyage énormément sur la planète. C'est terrible. Donc cette relocalisation et des circuits courts vont déjà diminuer ça, même si il faut être conscient aussi que pour les agriculteurs, ça devient de plus en plus dur, vu que les intrants, tout ce qui est l'alimentation animale, les engrais, tout ce qui peut être mis dans l'exploitation, ce sont des budgets et le GNR pour les tracteurs, qui augmente aussi, ça devient aussi des budgets très... et qu'il faut répercuter sur le prix de vente de l'alimentation, plus la logistique, où la logistique, souvent, était des, dans beaucoup de transformateurs vendeurs, n'était pas forcément bien appréciée et mise à son juste prix. Donc on voit bien que là, aujourd'hui, il faut que tout soit... Mais il y a une deuxième chose qui est importante, me semble-t-il, c'est que ce qui augmente aujourd'hui dans l'alimentation des Français... C'est sur l'alimentation des produits transformés où dedans il y a énormément de sucre. Parce qu'aujourd'hui,
Le sucre a explosé.
Et c'est l'aliment qui est le plus nocif pour l'alimentation aujourd'hui, avec le sel notamment. Et donc il faut jouer sur les deux, moins de sucre, moins de sel, dans l'élaboration des produits. Et si on élabore, nous, sur place, si on met en conserve des produits avec des durées de vente qui sont beaucoup plus courtes, parce que le sucre ou le sel permet d'aller très loin dans la conservation. Ouais. Donc si on diminue tout ceci, on va aussi diminuer le prix et on va aussi être... Et il y a un autre élément, on n'en a pas trop parlé, mais qui est important aussi, c'est par exemple sur l'emballage des choses aujourd'hui. Abandonner le plastique, ça veut dire peut-être revenir au verre. Mais quand on revient au verre, c'est comment ce verre-là, on empêche qu'il aille de nouveau être broyé et fondu, ce qui est très consommateur d'énergie, avec du lavage, où aujourd'hui il y a des pratiques de lavage très économes en eau, notamment, et à réutiliser ce verre dans la production locale. Ça aussi, c'est un challenge que l'on veut mener au niveau de l'économie circulaire, notamment au niveau du département.
C'est un nouveau type de commerce qui est en train de refleurir aussi les épiceries en vrac. Voilà, c'est ça, où chacun ramène son petit récipient comme ça se faisait
tout à fait.
Dans le temps.
Voilà, tout à fait.
Et sur la question du prix, pendant les réunions thématiques, les acteurs ont proposé une piste d'action qui est intéressante, c'est la sécurité sociale de l'alimentation. Alors après, il faut savoir aussi que ces actions... les élus du département prioriseront les actions qu'on va aller creuser par la suite. Là, c'est de recenser ce qui fait écho au territoire, les actions que les acteurs pensent qu'il serait pertinent de développer. Et cette action de la ressortir. Et en fait, il s'agit de développer la solidarité alimentaire. C'est-à-dire que ceux qui gagnent... Mais bon, ça se base sur un collectif de citoyens et des volontés de citoyens aussi.
Et l'idée, si je ne dis pas de bêtises, c'est de proposer plusieurs prix sur des types de produits et de permettre à ceux qui ont les moyens de payer plus cher, de mettre plus cher, pour que ceux qui gagnent moins puissent avoir accès à la même alimentation de qualité, du fait d'une solidarité, en fait. Voilà. Donc après, ça passe soit par une caisse commune ou soit à l'achat même, où on propose plusieurs prix.
Oui,
c'est ça.
Il y a différentes moyens de le mettre en œuvre, ça c'en est une. Oui. Et c'est encore au stade expérimental. Il y a pas mal d'expérimentations en France qui se font autour de ça. Il y en a une à Montpellier, enfin assez proche. Et il y a plusieurs modalités de mise en œuvre, et ça c'en est une. Oui. C'est le principe, en tout cas. Ceux qui gagnent suffisamment d'argent pour pouvoir choisir leur alimentation et voire plus, sont solidaires avec ceux qui n'ont pas les moyens de pouvoir choisir leur alimentation et sont assignés à l'aide alimentaire ou à ce qu'ils peuvent se permettre.
C'est ça.
Mais je pense que c'est aussi le mot sécurité qui est quand même très important, vu les aléas climatiques qu'il y a aujourd'hui, les problématiques de dérèglement climatiques qui sont des sécheresses. Donc ça veut dire que l'alimentation, la production peut avoir lieu, mais être avec des tonnages beaucoup plus bas. Et donc ça veut dire que sécuriser l'alimentation, c'est sécuriser les hommes et les femmes de ce pays, c'est de pouvoir manger de façon à pouvoir vivre. Et on a le deuxième défi qui est conjoint à l'alimentation, qui est l'eau, et sur lequel il y a eu hier, je crois, des assises nationales sur...
Alors, ce sera plus hier quand l'émission sera diffusée.
Voilà.
Le 22 mars.
Le 22 mars, qui ont montré aussi cette nécessité vraiment de se pencher sur la problématique de l'eau douce, c'est-à-dire de l'eau à boire, alors qu'on a les deux tiers qui sont occupés par l'eau. La planète, c'est des océans, c'est plus de deux tiers qui sont dessus, sauf que dessalé, c'est énormément consommateur d'énergie, et que l'eau douce devient un bien précieux comme l'alimentation.
De plus en plus rare.
Voilà.
Les ateliers thématiques donc, qui se sont tenus, comme on le disait, en mois dernier, en février, ils étaient donc répartis en deux volets. Donc d'un côté la demande, d'un côté l'offre. Donc autrement dit, côté producteur et côté consommateur, hein, citoyen-consommateur. Donc on a parlé des premiers, en tout cas, on a parlé un peu là des citoyens. Parlons un peu plus maintenant des agriculteurs. Ils ont été dernièrement mis sous le feu des projecteurs, là, comme chaque année lors du Salon de l'agriculture à Paris. Plusieurs défis ont été soulevés hein, pour cette 59e édition, hein, je crois. Il y avait le changement climatique, le renouvellement des générations, comme on a pu le dire aussi, l'accès aux fonciers. Tous ces enjeux, ils se posent...
Partout.
Partout, donc en Lozère, pareil.
On n'y échappera pas, bien sûr.
Mis à part peut-être ce renouvellement des générations, qui est plutôt, en tout cas là, à l'heure actuelle... Pour l'instant, ça se passe plutôt bien en Lozère. Est-ce que les agriculteurs le craignent quand même d'ici 10 ans ou ils sont plutôt confiants au vu là, de 2022, les bons chiffres de renouvellement ?
Tout ça reste fragile. On a la chance d'avoir quand même des aides européennes qui stabilisent un petit peu les situations des agriculteurs. Mais par contre, c'est toujours fragile parce qu'on travaille du vivant. Donc on est à l'abri de rien sur les exploitations. On voit bien sur la santé animale qu'il faut faire très attention aussi à ce que les troupeaux ne soient pas décimés par une problématique. On voit bien avec la grippe aviaire pour les volailles. Donc tout reste fragile et on a bien besoin de tous de se serrer les coudes dans ce cadre-là. Quoi. Je pense qu'on a... Ce défi, même si on a l'impression que ce département il est préservé de par sa qualité de vie et tout ça, pour tenir la barre, il faudra faire attention à tout.
Parce qu'aussi, au niveau de la pyramide des âges en Lozère, elle est la même qu'en France aussi. Oui. On va avoir la moitié des agriculteurs qui vont partir à la retraite d'ici 10 ans.
Ah oui,
actuellement, on est à une installation pour un départ, mais les départs vont s'accélérer, donc...
D'accord. Et les nouvelles installations, c'est quoi les types de production ? Est-ce qu'il y a une préférence pour ceux qui s'installent ou pas ? Ou c'est varié ?
Il y a de tout. Je trouve que c'est un département expérimental pour beaucoup de choses. Ouais. Beaucoup de personnes viennent sur ce territoire pour tenter de faire un projet de vie. Et c'est ce qui est merveilleux d'ailleurs. Hein. Et puis il y a tous ceux qui renouvellent. Le papa part à la retraite, donc je reprends la place. Ou le tonton s'en va, je prends la place. Donc c'est le renouvellement des générations interfamiliales, ce qui est déjà une bonne chose. Ça ne sera pas partout le cas. D'ailleurs. Et donc, c'est déjà bien que chez nous, on le fasse. Après, il y a peut-être un écueil, c'est que les jeunes qui arrivent, parce que les anciens partent à la retraite, ils sont très jeunes. Ils ont entre 19, 20, 21 ans. Ils sortent du lycée. Et ça, il faudra qu'ils se forment sur la... Ils ont la formation théorique des établissements. Et puis, il faut qu'ils aient aussi la formation sur le terrain. Et aussi, peut-être quelque chose qui est nouveau et qui est en train de mûrir petit à petit dans les exploitations, c'est qu'on ne va peut-être pas faire qu'un atelier de vaches allaitantes, qu'un atelier de lait. On va peut-être diversifier un peu, regarder un petit peu. Parce que justement, il y a ces aléas climatiques qui pourront, avec la diversification, adoucir l'effet financier sur ces exploitations-là. Donc je crois qu'il y a une réorientation, il y a un questionnement logique de tout le monde, de la profession agricole dans son entier d'ailleurs, hein, aujourd'hui, de savoir comment on va faire demain.
Et la question de l'accès au foncier, est-ce que là, les nouveaux installants, ils mettent en place des plus petites fermes aussi ? Parce que c'est aussi un des enjeux soulevés, le fait de ramener plus de petites fermes et renverser un peu la tendance des grosses exploitations. Est-ce que ça aussi, en Lozère, ça a lieu ou pas ?
Quand on fait de la valeur ajoutée, la quantité d'hectares n'est pas forcément très importante. On voit qu'il y a des ateliers qui se font sur des petites surfaces. Ouais. On voit par exemple que sur des projets de plantes aromatiques et médicinales, on n'a pas besoin d'avoir des centaines d'hectares, par exemple. Ouais. On voit que quand on travaille sur de la châtaigneraie et de la transformation de châtaigne, on n'est pas sur des grandes quantités. Donc on va aller... Et la problématique qu'ont les grandes exploitations aujourd'hui, c'est le salariat. Ils n'arrivent pas à trouver des salariés. parce qu'avoir une exploitation de 500 hectares, il faut l'entretenir, 500 mmh. hectares. Ça demande beaucoup de main-d'œuvre. Et donc, il y aura peut-être une rationalisation. On ira sur des structures un peu plus petites, avec un petit peu plus de valeur ajoutée. De la coopération qui a un petit peu disparu, mais une coopération vraiment ce qui s'appelle la vraie coopération entre éleveurs pour pouvoir faire des produits, et bien, un petit peu comme a fait Elovel, par exemple, sur un produit qui est quand même une soixantaine de producteurs, un produit de qualité, estampillé IGP, Elovel, et qui cherche à avoir un IGP, production protégée, géographiquement protégée. Tout ça, ça fait aussi des atouts pour ce département. Donc on ira certainement vers une réduction des hectares. On ira plus sur de
la grosse exploitation.
Oui, je pense.
Et je l'avais promis, on ne l'a pas fait, de reparler de l'association AgriLocal, dont vous êtes porteur, je crois, monsieur Aigouin, c'est ça?
Oui.
Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu en deux, trois mots en quoi ça consiste? Parce que ça, justement, ça sert à faire à ce que tous ces agriculteurs se coordonnent.
Tout à fait. Ouais. Donc du coup ça avait deux objets très positifs. La première c'était de pouvoir mettre en concurrence sur une plateforme, donc de répondre au marché public. Sur une plateforme où des agriculteurs, des paysans ou des transformateurs ou des artisans qui transforment les bons produits viennent proposer leurs produits sur cette plateforme-là. Et en face, il y a la demande, c'est-à-dire la restauration collective. Et donc, on fait ses courses sur la... Et en même temps, on respecte le code des marchés publics, puisque les collèges doivent répondre, notamment, ou même les cantines, doivent répondre à la concurrence. Mmh. Donc on met en concurrence des acteurs d'un territoire sur la plateforme. Et donc là, l'avantage aussi qu'il y a pour les producteurs, c'est qu'ils peuvent avoir un site, c'est-à-dire sur la plateforme AgriLocal, on peut voir comment ils travaillent, comment ils traitent les animaux, comment ils conçoivent l'agriculture. Et donc, ça donne un petit peu l'appétit. On voit à qui on a affaire, donc, du coup. Mais on a aussi des transformateurs comme Lozère Viande ou comme des bouchers ou des charcutiers qui sont aussi dessus et qui proposent... Ils ont pas peut-être produit la matière première, mais ils transforment. Ils sont en deuxième transformation. Ils le font avec amour et de qualité. Et du coup, ça change un petit peu de tout ce qu'on peut voir en industriel. Et donc, ça donne envie d'aller acheter sur cette plateforme. Et donc, il y a deux façons de... Il y a le gré à gré, c'est-à-dire la semaine prochaine, j'ai besoin de tant d'aligots ou tant de bourguignons, ou bien je passe un marché à commande et je dis, ben voilà, dans l'année, j'aurai besoin de... Ça change la donne. Ça massifie.
Et tous les citoyens peuvent aussi s'y rendre, même si c'est pas adressé directement. On peut pas, en tant que citoyen, aller acheter, faire ses courses dessus, mais est-ce qu'on peut, nous, aller voir quand même
Alors, normalement, non. Parce qu'il faut avoir un code d'entrée. Un code d'entrée, voilà, qui est donné aux producteurs et aux...
C'est noté.
Voilà. Il faut s'inscrire, oui.
Okay. Il faut s'inscrire.
Dernière question, puisqu'on arrive à la fin. Elle s'adresse à vous, Aude Charmasson. Il y a d'autres ateliers là, qui sont prévus bientôt. La première, ça se tiendra le 28 mars, donc aujourd'hui même à Payers. Qu'est-ce qui va être question de quoi ?
Alors, ce sont des ateliers, enfin, c'est des ateliers d'échange grand public et vers les professionnels aussi. L'idée, donc du coup, nous, avec toutes les étapes de concertation qu'on a faites, on a une ébauche de plan d'action, de stratégie alimentaire. L'idée, c'est de voir si ces actions qui ont émergé, on a parlé de la sécurité sociale de l'alimentation ou d'autres actions qui ont émergé, comment est-ce que les territoires s'en saisissent ? Est-ce que ça répond aux problématiques locales auxquelles eux sont confrontés ou pas ? Ou est-ce qu'il y a des manques ? Et est-ce qu'il y a des recommandations de mise en œuvre sur ces actions en particulier ? Et est-ce qu'il y a des volontés locales de se saisir de telle ou telle action en particulier ?
D'accord.
Donc c'est vraiment de pouvoir... compléter, affiner ce plan d'action avant qu'on le soumette au vote des élus.
Ok, évaluer la viabilité des projets.
La pertinence et puis l'améliorer. Améliorer la pertinence pour que ce soit vraiment connecté au terrain, aux volontés locales et aux problèmes locaux.
Et là, pareil, ce sera ouvert aux citoyens ou c'est encore adressé d'abord aux acteurs de l'alimentation ?
Tout le monde. Aux citoyens, parce que sur la sensibilisation des consommateurs, ils ont leur mot à dire. Mmh. Sur l'accessibilité physique des produits aussi. Mais aux agriculteurs, parce qu'ils ont leur mot à dire sur tout. Aux restaurateurs, aux commerçants, tout le monde, parce que soit on est acteur professionnellement sur l'alimentation, soit de toute façon on est consommateur.
On est acteur quand même, ouais. Ouais. Dans tous les cas. Est-ce que vous pourrez peut-être nous dire, pour terminer, les dates des prochains rendez-vous?
Oui, alors, donc du coup, Payers aujourd'hui, 13h15, 16h30. Après, on a rendez-vous mardi 4 avril à Prévenchère, donc à la Gare de Guérin exactement, au magasin de producteurs Le Comptoir de Larry Gordon. Mmh. Pour un échange de 9h30 à 12h30, donc on commence vraiment à l'heure.
L'heure du repas.
Oui. Et du coup, justement, après, en fait, on enchaîne sur un buffet proposé par le magasin de producteurs pour que les échanges puissent continuer entre tous, parce que c'est des moments où on se retrouve et où on peut faire connaissance ou approfondir des liens qui existent déjà. Et après, l'après-midi, on propose de visiter le village de la Garde Guérin. C'est l'association La Garde qui fera la visite. Donc en fait, on a essayé de coupler à chaque fois avec quelque chose d'intéressant à voir sur place. Le lendemain, le mercredi 5 avril, à Florac, donc dans la salle des fêtes de Florac, à 9h15, pareil, pour un échange de 9h30 à 12h30, un repas ensemble. Et là, on pourra aller visiter l'atelier agroalimentaire de Florac et aussi les jardins partagés de l'association Quoi de Neuf, qui est une association d'insertion qui porte des jardins partagés et qui nous ouvre ses portes.
Ok.
On a le mercredi 12 avril à Saint-Chély, dans 9h30, 12h30 aussi, dans le restaurant pédagogique de l'école hôtelière Sacré-Cœur, qui nous offrira aussi le buffet par la suite. Et on pourra aller visiter soit les plateaux techniques du lycée, il y a la brasserie et le restaurant qui sont intéressants à visiter, soit l'atelier de la brasserie de la Naine qui nous ouvre ses portes aussi. Et après, le samedi 15 avril à Mende, le matin, de 9h30 à 12h30, il y a le marché sur la place et les gens sont bienvenus pour nous rejoindre dans la salle des fêtes du département de la Lozère pour échanger aussi sur ces sujets, avec ensuite un buffet aussi convivial et collectif.
Très bien. Voilà. J'espère que tout est noté. Sinon, on peut retrouver tout ça sur il y a le site du département, il y a des flyers, même sur réseaux sociaux.
Oui, sur Facebook, il y a à peu près tout ce qu'il faut. Et sur lozère.fr, sinon aussi.
Et sur
agrilocal48.fr.
Voilà. Est-ce qu'il y a encore un truc à dire?
Non. Venez participer à ces échanges. C'est la possibilité pour vous de vous exprimer sur l'alimentation.
On terminera là-dessus. Robert Aiguin, Aude Charmasson, merci beaucoup à tous les deux d'être venus.
Merci à vous.
Dans notre studio. Donc, on le rappelle en deux, trois mots, on vous avait invité pour parler du projet alimentaire territorial dans lequel est engagé le département depuis 2021. Actuellement, beaucoup d'ateliers sont prévus, donc vous pouvez retrouver tout ça sur le site du département. Et quant à nous, on se dit à très bientôt sur 48 FM.
Merci.